vers le rafraîchissement. Combien nous avons besoin de cela. Et j'ai entendu, vous savez, ces derniers temps, je vois bien et j'entends, je vois les épreuves qui arrivent dans les vies, dans nos vies. Et parfois, c'est dur de marcher sur le chemin de la foi. Alors ne croyez pas que marcher avec Jésus, ce sera de tout repos. Regardez ce que dit l'apôtre Paul, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Et plusieurs d'entre nous ont expérimenté cela. Ils ont vécu beaucoup de tribulations, beaucoup de souffrances, beaucoup de difficultés. Et dès lors qu'on sort d'Égypte, avant d'atteindre la terre promise, il nous faut passer par le désert. Et c'est cette période-là qui est ultra compliquée à vivre. Parce que dans ces moments-là, on a faim. Dans ces moments-là, on est attaqué. Dans ces moments-là, on a soif. Mais ce que je remarque, en tout cas, lorsque je vois le peuple d'Israël transiter vers la terre promise, je vois un Dieu fidèle et un Dieu qui a donné et qui donne toujours. Et là, ma petite femme adorée pourrait... Merci. Un jour, Pierre a dit ceci. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Je vous propose de nous arrêter quelques instants sur ce verset, ces deux versets, qui, à mon sens, ont beaucoup d'importance, sur lesquels je pense qu'on a besoin de réfléchir et agir derrière. Repentez-vous et convertissez-vous afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Pierre dit ceci à un moment clé, je pense, d'un homme, dans la vie d'un homme. Il y a ici un homme qui était boiteux pendant des années, qui était à la porte du temple, la belle qu'on appelait. Et vous souvenez de cette histoire, il est avec Jean. Et d'une manière directive, arbitraire, il va vers lui. Il dit, je n'ai rien à te donner, je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai à te donner, c'est la guérison de la part du Seigneur. Il dit, lève-toi et marche maintenant. Les gens se mettent à glouer Dieu. Ils connaissaient cet homme. Ils le voyaient tous les jours, enfin quasiment. Quand ils allaient au temple, ils le voyaient. Le gars faisait l'aumône. Il n'y avait pas d'autre solution. Et tous les gens voient cela et se disent, mais qu'arrive-t-il? Ils commencent à suivre Pierre et Jean. Et Pierre les renvoie pas vers lui. Pierre les renvoie vers Jésus. Il donne gloire à Dieu. Il va leur donner une clé que beaucoup d'hommes et de femmes ont besoin d'avoir pour entrer dans le royaume. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que vous viviez le rafraîchissement. La question que je vous pose, avons-nous besoin de nous repentir? Et avons-nous besoin de nous convertir encore? C'est une grande question théologique. Pour ceux qui font la voie, ils ont dû, et si vous avez suivi le parcours de cette semaine, vous pourrez vous rendre compte que, oui, nos péchés ont été effacés et nos péchés ont été... Nous sommes déclarés justes de la part du Seigneur. mais aussi encore, dans notre relation avec lui, nous avons besoin aussi de nous repentir. C'est pourquoi Jésus dira à Pierre, celui qui est déjà baigné n'a pas besoin d'être lavé de nouveau, le corps. Mais si tu ne permets pas que je te lave les pieds, tu n'auras pas ta part avec moi. Jésus est en train de lui dire, Pierre, tu as été lavé, purifié de tes péchés. Le Père te déclare juste, mais dans ta marche d'enfant de Dieu, tu as encore besoin d'être lavé. Repentez-vous. Ça implique automatiquement notre système, notre manière de voir les choses. Ça implique nos émotions. Ça implique notre volonté. Ça implique notre intelligence. On a besoin de prendre conscience qu'on a besoin encore et encore de demander pardon au Seigneur. Peut-être que vous ne sentez pas le besoin, mais que chaque jour que Dieu me donne de vivre, et j'espère qu'il y en aura encore pas mal, chaque jour, je me dis, mais Seigneur, aujourd'hui encore, n'ai-je pas dévié, n'ai-je pas désobéi, n'ai-je pas fait du mal sans le vouloir? Repentez-vous et convertissez-vous. Convertissez-vous, en fait, si vous prenez le terme exact, c'est comme s'il y avait un changement de direction à un moment donné. Et pour les profs de maths, et ceux qui aimaient bien ça, j'aimais bien faire ça quand j'étais à l'école et au collège, je ne sais plus, enfin bref. Vous savez, quand on fait des conversions, quand on convertit des litres en mètres cubes ou quand on convertit des kilomètres en centimètres, est-ce que vous avez déjà remarqué, moi, enfin, plus maintenant, parce qu'il y a des tables de conversion, hein, les smartphones, à tel point que quand je donnais des formations, les gars, ça avait pu faire des conversions de tête, ne serait-ce qu'en faisant le petit tableau. Mais quand on avait un petit tableau, on dessinait un tableau avec les unités, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, et que faisions-nous? Si je devais convertir des mètres cubes en litres, il fallait que je déplace le curseur en réalité. Il fallait que je mette mon point, le point là où je devais aller, au point de l'unité à laquelle je voulais aller. Mon frère, ma sœur, la conversion, c'est lorsque je me mets à réfléchir comme Dieu le veut. Je ne peux pas me repentir sans conversion. Je peux être touché intérieurement, je peux être touché dans mon âme, je peux être attristé, mais ça ne va pas m'amener loin. J'ai besoin de la conversion, c'est-à-dire que j'ai besoin de régler mon système de pensée à celui de Dieu. Et souvent, j'ai vécu des temps de sécheresse parce que je m'étais repenti, mais je ne m'étais pas converti. C'était à la mode dans le temps. Enfin, dans le temps. Je parle comme un vieux maintenant. Le jour où vous parlez comme ça, faites gaffe. Hein. C'est que vous êtes vraiment vieux. Mais c'est vrai, on a vécu des réunions, je me souviens, des réunions de réveil, on vous demandait, repentez-vous. Je me repentais. J'étais touché par le message. Et derrière, je recommençais. Parce qu'il n'y avait pas quelque chose qui arrivait derrière, qui venait de moi, parce que j'avais besoin de bouger le curseur pour penser vivre comme Dieu me le demandait. Et combien, mes frères, mes sœurs, on a besoin de cela aujourd'hui. La première des choses à laquelle je vais vous interpeller, c'est si vous vraiment vous sentez de la sécheresse et de la soif, repentez-vous, mais convertissez-vous. Parce qu'il y a une promesse derrière, afin qu'il vous donne des temps de rafraîchissement de la part de Dieu, notre Père. Tu peux tourner, chérie. Et nos vies sont souvent malmenées. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, à moins que vous êtes aveugle, vous soyez aveugle. Ou parfois, on a eu des épreuves, des conflits, des luttes, des combats, des conséquences de notre désobéissance. Vous savez, les temps de sécheresse, il y a deux sources. Bah, tout simplement le chemin pour arriver à la terre promise. quand Dieu leur fait passer, les fait passer par le désert, ce n'est pas par hasard, hein, parce que les épreuves vont les amener à prendre conscience d'eux-mêmes et conscience de qui est l'Éternel, de qui est Dieu. Ça, c'est notre chemin, ça fait partie de la vie, ça. Du cheminement d'un disciple, c'est de passer par les épreuves. Si vous ne pouvez pas accepter cela, ça ne vaut même pas le coup de continuer de marcher avec Dieu. Je pèse mes mots quand je dis ça. Armez-vous à la pensée de souffrir, nous dit la Bible. Pierre dira, eh bien, puisqu'il le faut, il a dit, puisqu'il faut que vous soyez éprouvés pendant un certain temps, il le dit, il le faut. Ça fait partie de la nécessité de purification des vies. Alors, on ne va pas jouer les masos, hein. Mais ça fait partie, ça. Et souvent, vous avez deux sources de la sécheresse. La première, c'est le parcours, tout simplement. La deuxième, c'est notre désobéissance. Il y a des gens qui ont l'art et la manière pour s'engouffrer. Ils sont dans un oasis. Moi, non, je veux aller dans le désert. Non, mais c'est vrai. Et on a besoin parfois de se repentir de cela. Parfois, on va chercher des choses, et je le disais dernièrement, des choses qui nous nourrissent. On cherche à se remplir de choses qui vont nous faire du bien. La petite pommade sur le bras. Alors que il nous est rappelé sans cesse ce que Jésus a dit, « Je suis le cep et vous êtes les sarments. » Nous passons notre temps à voyager entre le cep et notre vie personnelle, alors que être attaché, c'est être attaché et vivre une relation intense, profonde, intime avec lui. Voilà la vie. La vie nous malmène, oui. Nous sommes malmenés. Et n'attendez pas, ne vous imaginez pas un instant que le bonheur sera total ici-bas. C'est auprès du Père. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit « Il me tarde d'aller voir le Père ». Mais en attendant, si je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport au désert, bien que l'épreuve soit là, bien que la désobéissance était là, bien qu'il y avait beaucoup d'incrédulité de la part du peuple, le Père a toujours répondu aux besoins de ses enfants. Alors, quelle que soit ta désobéissance et quel que soit le chemin par lequel tu passes, le Père veut te faire du bien. Et souvent, on se dit, il ne veut pas parce que j'ai fait cela. Je crois que notre Père Céleste veut nous réserver de bonnes choses. Et ici, et par la bouche de Pierre, il dit que le Saint-Esprit nous promet des temps de rafraîchissement. Des temps où le Père veut nous faire du bien. Un jour dans le désert, ça a manqué d'eau. Je parle de la première fois, pas de la seconde. La seconde a été un peu fatale pour Moïse et Aaron. Il manquait d'eau. Ils étaient dans le désert, ils avaient marché. Et clairement, bon, le peuple de Dieu a cherché la responsabilité sur quelqu'un. Et en général, c'est toujours sur ceux qui conduisent qu'on va mettre ça sur leur dos. Si une église ne va pas, c'est toujours de la faute des responsables. Je ne sais pas si je vous l'apprends, mais c'est toujours comme ça. C'est jamais de votre faute. Tout est de ma faute, celle de Jean-Luc, des anciens, des responsables. Dieu a dit à Moïse, « Prends ton bâton et frappe le rocher. » Il répond à un besoin profond du peuple. Le Père voit la soif. Il voit même l'animosité, il voit même l'incrédulité du peuple. Et pourtant, il ne dit pas, « Quelle bande de... mal dégourdi, ou qu'est-ce que j'ai fait là, etc. » Il dit, « Moïse, prends ton bâton et frappe le rocher. Il en sortira de l'eau. » Et il dit même que ce rocher, la Bible dit même que ce rocher, c'est Christ, notre Seigneur. Jésus est le rocher. Il est dit en Exode 17, « Je me tiens là, sur le rocher, devant toi. » Et il y a même 1 Corinthiens 10, verset 4, qui dit qu'il y avait un rocher qui le suivait. Je me suis posé la question. J'imagine le peuple qui marche, puis le rocher les suit. Mais non, mais allez voir 1 Corinthiens 10, 4, c'est ce que dit le texte. Il y avait un rocher qui le suivait. Christ était avec eux. Waouh ! Et ce rocher a été frappé, crucifié. Ce rocher, c'est Jésus. Afin que les hommes qui viennent à lui puissent étancher leur soif. Waouh ! Ça veut dire que mon Seigneur, il a été brisé pour que je puisse boire malgré ma désobéissance, malgré mon cœur mauvais. Il a été brisé, frappé, pour que nous puissions aller puiser à lui et recevoir la vie en abondance. Et tant de fois nous négligeons cette source. Et tant de fois, nous passons à côté et nous disons « Non, non, désolé, j'ai piscine. Désolé, j'ai pétanque. Désolé, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. » Alors que Jésus est mort, frappé, et parfois j'ai soif et je vais chercher à boire ailleurs que lui. Waouh ! Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est un manque de respect par rapport à ce qu'il a fait. Ce que Jésus a promis, il a promis d'être toujours avec nous et quelles que soient les circonstances. Il nous a aussi promis que si nous avons besoin de rafraîchissement, nous pouvions aller boire à la source à lui. C'est sa promesse. C'est son héritage. C'est l'héritage qu'il nous laisse. Et je vous rappelais ce qui a été dit dernièrement. L'héritage, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là au culte, c'est le jubilé. L'héritage, c'est un bien acquis ou transmis par voie de succession. C'est-à-dire que, alors, on commence à y penser, nous, on commence à y vieillir, et souvent on pense à ce qu'on pourra léguer à nos enfants. Toute notre vie, on a élevé nos enfants pour leur transmettre quelque chose. On leur a transmis des valeurs, on leur a transmis des choses. Et bien aussi, on leur transmettra aussi des biens, enfin je l'espère. Et le Père et Jésus s'est acquis l'héritage qu'il nous transmet aussi. C'est pourquoi nous sommes héritiers, co-héritiers avec Christ. Nous sommes ses héritiers. Et ça, on le voit dans Lévitique 25, verset 10. Dieu dira, la 50e année est sainte et le jubilé est une chose sainte. Vous savez, dans le Lévitique, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas là ce jour-là, dans le Lévitique, il est écrit que tous ceux, vous savez, quand Dieu leur donne le pays promis, ils ont tous chacun des terres, des territoires. Et forcément, à cause de la sécheresse parfois, à cause de leur désobéissance, alors à cause peut-être aussi de leur mauvaise gestion des choses, à cause aussi peut-être de, peut-être qu'ils ont été roulés par les autres, certains perdaient leur terre. Et dans le Lévitique, vous pouvez savoir que ils devaient compter d'ailleurs 7 années fois 7, c'est-à-dire 49 années. Et pendant ces 49 années, celui qui avait vendu ses terres les avait perdues. Mais la 50e année, l'année du jubilé, tous ceux qui avaient récupéré les terres des autres devaient leur restituer. tout ce qui avait été pris, tout ce qui m'avait été pris par ma désobéissance, par ma négligence ou par le malheur de la vie, m'était restitué. C'était là leur héritage. Et par le jubilé, Dieu introduit le fait que la conséquence des fautes et des péchés de son peuple est complètement annulée. Ça, c'est l'année du jubilé. La 50e année. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais ça doit être puissant. 50 ans. 50 ans sans pouvoir aller sur ces terres. Et du jour au lendemain, le gars retrouvait son acte de propriété. Et Jésus, un jour, en commençant son ministère, il sort du désert. Il a été tenté. Il va prêcher par la puissance du Saint-Esprit le royaume de Dieu. Il entre dans la synagogue de Nazareth. Il va ouvrir la parole du prophète Ésaïe. Et ce jour-là, il va dire « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a envoyé pour dire aux aveugles, recouvre la vue. Il m'a envoyé pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roule le livre. Il le remet au serviteur, il s'assied. Et il commence à leur dire ceci. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Aujourd'hui, ce jour-là, Jésus, il ouvre le jubilé, mes frères et mes sœurs. C'est-à-dire que pendant des siècles, les hommes avaient perdu des choses. Ils avaient permis au diable d'entrer dans leur vie à cause de leur péché. Il y avait la puissance du péché qui était telle que des gens étaient opprimés, captifs de démons. Il y avait des gens qui étaient aveugles. Il y avait comme des héritages qui s'étaient transmis de génération en génération. Il y avait le malheur. Il y avait la pauvreté. Il y avait la capacité de vivre pleinement la vie de Dieu. Et ce jour-là, Jésus annonce l'année du jubilé. Le Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et j'ouvre cette année du jubilé. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Et pour moi. Et pour tous ceux qui sont en dehors. Nous sommes encore dans cette année de grâce, dans cette année de jubilé. Nous sommes encore au bénéfice de ce que Jésus a ouvert ce jour-là. Même s'il a roulé le livre, il l'a rendu au serviteur. Mais en ouvrant le livre et en proclamant ces mots du prophète Ésaïe, il a proclamé des choses dans le ciel et sur la terre. Qui sont des réalités qu'il veut transmettre à son peuple aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on t'a volé? Là, il est question de choses qu'on a volées sur le plan spirituel. Il y a des captifs. Là, il y a des choses qu'on a volées sur le plan émotionnel. Il y a des cœurs brisés. Il y a aussi des choses qu'on a volées sur le plan physique. Il y a des aveugles. Tous les domaines, esprit, âme et corps sont regroupés dans ce texte du prophète Ésaïe, proclamé par Jésus qu'il s'attribue en ouvrant une année de grâce de la part du Seigneur. Je l'ai lu pendant des années. Mais est-ce que j'ai réalisé, est-ce que tu réalises la puissance de ces mots? Est-ce que tu réalises ce que Jésus est en train de dire ici? Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu saisis par la foi que l'Esprit du Seigneur veut rétablir ces temps de rafraîchissement, de renouvellement dans ta vie. Parce que ça t'appartient. Le rafraîchissement, c'est une saison pendant laquelle Dieu nous visite d'une façon particulière. Nous avons et nous aurons toujours besoin de rafraîchissement. La question est, c'est où en es-tu aujourd'hui dans ta vie? Car nous avons perdu notre énergie spirituelle où la puissance de Dieu s'amenuise. Or, notre héritage, ce n'est pas là-dedans. Pierre l'avait vécu, ce temps de rafraîchissement. Il était bien loin du rafraîchissement dans le jardin de Gethsémané. Il était bien loin du rafraîchissement dans la cour où on a été en train de frapper Jésus, de l'humilier, où il l'a renié. Il était bien loin, ce Pierre, d'être un homme rempli de Dieu. Mais le Père l'a restauré. Et le Père l'a touché le jour de la Pentecôte. Je te pose la question, comment tu peux être rafraîchi? Mais je pense que ça se résume par le texte du prophète Osée qui invite son peuple et en disant « Connaissons et cherchons à connaître l'Éternel. » Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Il viendra pour nous. Comme la pluie. Comme la pluie du printemps qui arrose la terre. C'est vrai qu'on en manque pas en ce moment. Vous savez, hier, j'étais dans mon jardin, c'est plus un jardin, c'est un marais. Bientôt, on va voir les grenouilles apparaître, les nénuphars. Et j'ai dit au Seigneur, « Oh Seigneur, j'aspire voir le soleil. » Et puis, j'ai ouvert la télé hier. Et j'ai regardé dans le sud les incendies qu'on voyait apparaître. Et le Saint-Esprit m'a repris. Il m'a dit, « Mais est-ce que tu te rends compte, Bruno, que l'eau, que la pluie du printemps est une bénédiction ?» Tu veux être rafraîchi? Repens-toi. Convertis-toi. Retrouve une relation, une écoute, une obéissance avec le Seigneur. Le rafraîchissement, ça ne dépend pas d'une imposition des mains. On peut le faire, on va prier les uns pour les autres après. Le rafraîchissement ne dépend que de toi. Parce que la source est là. Et tu n'as plus besoin de frapper le rocher a été frappé. La source est là, comme l'image que vous avez vue en introduction. Alors les conséquences du rafraîchissement. À quoi je peux voir que j'ai besoin de rafraîchissement? D'abord, les conséquences, c'est le salut, la guérison, la libération, la restauration, comme on a pu le lire. Mais je trouve que le rafraîchissement, c'est un peu comme Pierre qui voit Jésus lui laver les pieds et qui dit « Oh non, non, mais moi j'ai besoin d'être lavé entièrement. » Parce qu'il prend conscience que ses pieds sont sales, mais il dit « Mais il n'y a pas que ça qui est sale, j'ai l'impression d'être tellement sale de partout, Seigneur. Il faut que tu me laves partout. » C'est-à-dire que Pierre, quand Jésus lui fait ça, il est en train de prendre conscience de la sainteté de Dieu. Et quand la conséquence du rafraîchissement, c'est que tu prends conscience que Dieu est saint. Et vous savez, le psaume 110 dit ceci, « Ton peuple est plein d'ardeur quand tu rassembles ton armée. » Et vous pouvez le traduire par « Ton peuple s'offre volontiers quand tu déploies ta puissance. » Moi, je préfère cette version-là. Cette traduction-là. Quand Dieu va déployer sa puissance en toi, tu vas te donner. Pourquoi? Parce qu'on passe notre temps, mes frères et mes sœurs, à calculer pour Dieu, à négocier avec Dieu. Fais de la négoce. Si tu fais ça, je ferai ça. On le prend un peu comme mon chien. Moi, je fais mon chien. Je vois, je la prends à s'asseoir. Vous savez, alors, s'il y a un trottoir, je fais « Joe, trottoir ». Et je ferme la main parce qu'il sait qu'il y a un petit truc là. Il s'assied parce qu'il sait qu'il y a un truc là. Et souvent, on passe notre temps à négocier avec Dieu. Or, Dieu ne négocie pas. Et nous n'avons pas à négocier avec Dieu. Nous devons obéir, tout simplement. Et vous savez, réfléchissez à cela, dans notre manière de vivre notre relation avec lui. Mais dès lors que nous vivons des temps de rafraîchissement, là, on va commencer à se donner sans calculer. Ouais, tu comprends, Seigneur ? J'ai 5 minutes devant moi avant le boulot, je vais prier. Là, tu vois, Seigneur, c'est très rare que je parle de ça. Mais j'en parle, tiens. Là, Seigneur, tu vois, ce mois-ci, je ne vais pas donner pour toi mon argent. Alors que tout lui appartient. Vous savez, quand je me rends compte que, alors peut-être pas vous, hein, mais moi j'ai besoin de ce rafraîchissement. Parce que je vois bien que je n'ai pas encore toute l'ardeur pour lui. Je ne suis pas encore assez fou pour lui. Et je voudrais lui donner plus encore. Ton peuple s'offre volontiers quand tu déploies ta puissance. Tu peux passer, Marie. Je crois que c'est le dernier. Le psaume 92 dit ceci. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Et je vais terminer ce message par une petite expérience que je vais vous partager. Il y a quelques mois, c'était l'été dernier, vous vous souvenez, ça ne saussait pas comme en ce moment. Hein. Il faisait sec. Puis un beau jour, Marise, elle me dit, tu vois Bruno, j'ai vu un truc sur Insta. C'est Insta, Marise, elle est jeune, elle est sur Insta. Elle me dit, j'ai vu un truc sur Insta, c'est une dame qui a fait une piscine, elle a une piscine autoportée et puis elle l'a habillée tout autour. Et moi, je dis à ma femme, je dis à ma petite femme, je dis, va acheter, je te le fais. J'ai commencé à lui faire cette piscine autoportée, tout habillée, tout autour. Je voulais lui faire plaisir. Donc j'ai commencé à travailler. Et j'ai commencé à bosser. J'ai bossé pendant une semaine sous le cagnard. Et il y a un jour où j'avançais bien, j'étais content. Et j'ai oublié de me désaltérer, j'ai oublié de boire. À tel point qu'à un moment donné, je me suis senti très très mal. J'avais le tournis, etc. Et il était 17 heures environ. Et j'étais vraiment pas très bien. J'ai dit à Marie, j'arrête, je me sens pas bien. Et là, qu'ai-je fait? Je suis rentré et j'ai bu au moins 2 litres d'eau. J'en pouvais plus, quoi. Je me suis désaltéré. J'avais besoin de remplir, vous voyez, de désaltérer par l'intérieur. Ça, c'est ma relation avec Jésus. Et puis, qu'ai-je fait aussi? J'ai fait quelque chose de particulier. C'est que j'ai dit à Marise, bon, j'arrête pour aujourd'hui, mais je vais aller prendre une douche. Et j'ai pris une douche froide. Et ça m'a fait du bien. La douche était froide et j'avais rempli. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui veut nous rafraîchir. Étonnamment, j'ai pris mon repas avec Marise et je vous assure que c'est vrai. Il était 19h30, on a fini de manger. J'ai dit, Marise, je vais retourner travailler. Pourquoi? Parce que j'avais été rafraîchi de l'intérieur et de l'extérieur. Et ça m'avait fait tellement du bien que j'ai encore bossé jusque 21h30 pour avancer la petite piscine pour Marise. Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? On va prier maintenant. On va prier les uns pour les autres. Si vous avez besoin de temps de rafraîchissement, on va prier. Mais ce qu'on va faire aussi, cette semaine, on va prendre du temps avec le Seigneur. On va mettre un peu de louange pour commencer notre temps de prière. On va prier, on va laisser le Saint-Esprit nous visiter cette semaine. On va peut-être laisser tomber quelques activités. Hein ? D'accord ? Vous n'irez pas à la pétanque cette semaine. Et puis, on va aussi permettre à la parole de Dieu de venir en nous. On va méditer sa parole. On va prendre du temps dans sa présence, des temps de méditation. On va se laisser aimer par Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Et je crois que c'est ce que Dieu veut faire. Parce que vous savez, la cascade, là, je l'ai vue en vision. Bon, ce n'est pas exactement ce que j'ai vu, hein. Mais j'ai vu une cascade. Et j'ai vu combien Dieu voulait faire ça aujourd'hui, dans nos vies, dans nos cœurs.